4e fois de sa carrière.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
C'est samedi sur France Inter, en partenariat avec le journal Le Monde. Marie Modiano pour son recueil de poèmes, Espérance mathématique, chez l'arbalète Gallimard.
J'ai vu ça comme un tableau. C'est ça que j'ai dit à Marie, c'est que j'ai eu l'impression de voir quelque chose. Et ça, c'est la chose la plus difficile à réussir avec les mots.
Et Mishka Assayas, Faute d'identité chez Grasset.
La pudeur de l'écriture dans les chansons, dans les romans ou dans la poésie, c'est quelque chose d'important pour faire passer plus d'émotions.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h. France Inter. La différence.
15h04, très bon après-midi en compagnie de Daniel Mermet. C'est Là-bas si j'y suis.
C'est con pour un parfumeur de Puy de la Gueule.
Bonsoir Daniel Mermet. Ici François Mitterrand. Mon Dieu, j'apprécie vos émissions que je suis tous les jours de là-haut. Elles sont fort intéressantes, même si ce n'est pas ma tasse de thé. J'entends vos auditeurs qui se demandent si nous allons vivre un nouveau mai 81. Mon Dieu, je l'ignore. Je l'ignore. Mais je l'espère. J'observe de là-haut ce nain arrogant qui s'accroche et je me dis que nous aurons le président qu'on mérite. Alors votez. Votez et souvenez-vous. Qu'ont-ils fait pour les ouvriers? Rien. Qu'ont-ils fait pour les employés? Rien. Qu'ont-ils fait pour les chômeurs? Rien. Qu'ont-ils fait pour les patrons? Tout. Alors, réfléchissez bien et votez. Mon Dieu, votez pour la gauche, ou au moins pour la mémoire de la gauche. Allez, je vous rappelle très vite, c'est l'heure d'aller dîner avec le général. Il me rappelle tous les jours qu'il y a des gens qui sont faits pour servir à table, et d'autres pour servir l'État. Vive Daniel Mermet, vive les auditeurs et vive France Inter.
Bonjour là-bas, si je suis, je vous adore, toute votre équipe, et je vous remercie pour les émissions. Évidemment, il faut réduire l'éducation en France. Les jeunes ici sont beaucoup trop éduqués. Ils deviennent les gens qui posent des questions qui gênent. En même temps, ça fait le système de classe comme en Angleterre. Les riches qui peuvent payer une bonne école privée, qui domine les pauvres, mal éduqués et mal informés. C'est Rose, une Anglaise qui habite dans le Cher. Je vous remercie. Bye bye.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je suis à Paris, dans le 19e arrondissement, place des Fêtes. Et je vous appelle pour vous dire que les parents d'élèves de l'école Eugénie Coton sont mobilisés contre la fermeture d'une classe. C'est une école qui se passerait bien de difficultés supplémentaires et nous demandons au rectorat de revenir sur sa décision. Merci, c'était Estelle, à Paris.
Une salade niçoise et un verre d'eau. Régime de Nice.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous. Je viens d'entendre l'émission sur l'école. Et voilà, je suis un peu content et à la fois désespéré parce que ça fait pour ma part à peu près 20 ans que je le raconte à tout le monde, à savoir qu'il y a une volonté politique, et alors droite ou gauche, c'est sans importance, de détruire la qualité et ce qu'est l'enseignement en France, alors que c'était sans doute ce qui faisait de notre démocratie une véritable démocratie, ce qui n'est à l'évidence plus le cas aujourd'hui. Je pense que la conclusion la plus simple, et ce que je dis à quelques amis quand je peux en parler, c'est n'importe quel gouvernement préférera toujours des cons qui consomment. Voilà, bonne journée à tous.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Il y a un an à peu près, un peu moins d'un an, mais passé, de l'an passé, 2011, voilà. Nous étions au Japon, à Fukushima notamment, et on vous avait présenté une série de reportages intitulés « Carnet de route dans un Japon qui doute ». Et effectivement, le Japon commençait à douter. Et ça a été un doute comme une fissure qui s'est installée entre le pouvoir et les Japonais, entre le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique aussi. Les Japonais se sont mis à douter, non pas qu'ils aient abouti à une réflexion longue due à on ne sait quel dogme ou théorie, mais simplement suite à ce qui s'est passé, que vous connaissez, le drame du 11-3-11. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé au Japon. Les choses ont basculé au Japon. Bien sûr, il y a le nucléaire. Les Japonais protestent contre le nucléaire à 85%. Ils sont contre le nucléaire dans leur pays. 52 des 54 centrales sont fermées maintenant. Il n'en reste plus que deux qui devraient fermer prochainement. Fermer, ça ne veut pas dire en voie de disparition, en voie de démolition. On n'a pas encore, on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais on a trouvé des remplacements. Mais il y a des études très importantes dans la direction des énergies renouvelables. Bref, il s'est passé quelque chose. Mais il se pourrait bien aussi que ce doute dépasse le nucléaire et qu'il soit de nature plus politique, que le doute s'insinue dans d'autres domaines vis-à-vis de ces pouvoirs, de cette oligarchie qui a tant trompé si longtemps les Japonais. Ils en sont conscients là-bas, ils le disent, ils protestent. Et puis on le verra aussi dans cette émission, les Japonais qui vivent ici et qui suivent ce qui se passe de très près dans leur pays. 11-3-11 Fukushima, c'est notre sujet du jour. Retour donc au Japon, vous avez compris, un an après. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Dans la chaude splendeur d'une belle journée, elle dort en plein air, les cheveux dénoués, étendus au tapis moelleux de la pelouse. Son long voile a glissé dont elle avait couvert son corps de fille en fleurs, qu'épanouit la sieste. Pour rendre à tant de grâce un hommage superbe, l'heure avance sans bruit dans le soir éclatant, l'amour nous approchait et le bonheur attend. François D.
Bonjour Daniel, salut les AMG, voici un message du comité d'audit citoyen de la dette publique de Lille Métropole, constitué d'associations et de syndicats. Une grosse journée est organisée le samedi 17 mars, les assises citoyennes de la dette publique. Sous forme de table ronde, vous pourrez discuter de la dette avec des invités comme Esther Geffers, Pierre Calfa, Christiane Marty et Damien Millet. Bienvenue à tous le 17 mars, 14h, à la Maison de l'éducation permanente à Lille. C'était Germain d'Attaque Lille.
C'est Monique qui appelle de Saint-Pierre-des-Corps. C'était pour dire que c'était très bien cette émission d'hier sur la lutte des classes et qu'elle se résume en quelque sorte en une seule phrase que j'ai entendu dire par Nicolas Sarkozy sur France Inter. Il a dit « Il y a des enfants qui sont faits pour faire des études ». Voilà, les autres, on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, merci et bonne continuation.
Sacré Nicolas, s'il perd, il s'en va. Est-ce un souhait, une menace, un ultimatum ? Ne nous quitte pas, Nicolas. On dira plus que ton bilan après quasiment 12 ans de pouvoir avec l'intérieur et Bercy, on dira plus que c'était pitoyable. Tu as promis que tu vas changer. Personne ne te croit, mais je te promets, on fera semblant. Tu as même dit que ton fils Jean devra se débrouiller tout seul par ses propres talents. C'est bien ça. Et puis ça nous laisse de grandes chances de ne plus le revoir non plus. Si je perds, je m'en vais. C'est beau comme du Jospin. Vas-tu rejoindre Lionel à l'île de Ré, lui faisant des pâtés et toi des châteaux? Allez, adieu Nicolas. Au fait, en partant, ça serait bien que tu embarques aussi Éric Besson, Claude Guéant, la gentille Pécresse qui fait tant de peine à voir tellement elle se force à dire que tu es formidable. Et puis aussi Fillon sur l'île de Ré, qui sera plus utile qu'un Matignon. Oui Nicolas, tel un Napoléon à qui il ne manque que la grandeur, ça serait bien que tu les embarques tous. Surtout Bachelot et aussi Villepin. Allez, adieu Nicolas. Ça va être dur mais on s'y fera. Tu seras bien là-bas. Tu nous as pris pour des moules. Bah, là-bas tu vas pouvoir faire plein de référendums avec les bigorneaux. Adieu. Et on brasse Lionel pour nous. Hein. Allez, c'était un au revoir de Pascal, de Lyon.
L'accident de Fukushima ne va rien changer. La production d'électricité d'origine nucléaire va continuer à augmenter dans le monde.
Euronews, 21 septembre 2011.
L'avertissement du directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano, tranche avec la volonté du premier ministre japonais d'éliminer progressivement les centrales nucléaires de l'archipel.
De nombreux pays, dont l'Allemagne, ont revu leur politique en matière d'énergie nucléaire. Mais à cause du réchauffement climatique, les demandes en énergie nucléaire vont augmenter.
Le chef de l'AIEA a visité Fukushima où il a constaté les avancées des travaux de nettoyage. 4 des 6 réacteurs de la centrale ont été gravement endommagés par le tsunami du 11 mars. Il faudra encore 10 ans pour les démanteler. Cet accident, le plus grave du nucléaire civil en 25 ans, a donné un coup d'arrêt au réacteur japonais. Un coup dur pour l'archipel, étant donné sa dépendance à l'énergie nucléaire. Avant la tragédie, elle fournissait 30% de l'électricité. Le rêve du lobby nucléaire d'atteindre 50% en 2030 a vite été oublié, vu les circonstances.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la baisse, j'y suis avec Guy Ventil, avec Atsuko, avec Colin. 11, 3, 11, Fukushima.
T'as entendu le dring, 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 ça c'est...
Voilà, on vient de s'arrêter parce qu'il y a un tremblement de terre, ça a été annoncé. Ça vient d'être annoncé à la radio. Effectivement, la bagnole s'est mise à trembler là sur le parking et on vient de s'arrêter précipitamment. Et qu'est-ce qu'on dit à la radio ?
Alors, un tremblement de terre de 6 mois sur l'échelle japonaise. Dans la préfecture de Fukushima, Ibaraki, Sud-Ibaraki, il y a une alerte au tsunami. Voilà, ça c'est le bruit d'alerte au tsunami. On parle d'un tsunami d'un mètre. On a déjà repéré une première vague de tsunami à Ibaraki, dans la préfecture de Fukushima.
C'est là où nous sommes là.
Et on pense que le tsunami est déjà arrivé sur la côte à Ibaraki. On demande à la population d'évacuer rapidement vers les hauteurs. Un degré d'alerte inférieur au tsunami est étendu le long des côtes dans les deux directions. Après une première vague, on peut s'attendre à d'autres vagues successives qui peuvent être plus hautes, donc il ne faut absolument pas s'approcher ni de la côte ni des rivières. Il y a eu l'alerte, mais il y a eu l'alerte avant le tremblement de terre. C'est pour ça qu'on a le temps de se ranger sur le parking. En fait, là, vous avez vécu ce que les gens qui habitaient à Tokyo et dans le nord-est du Japon vivaient avec la radio allumée comme ça toute la journée. Et ta journée était interrompue par ces alertes.
C'était l'année dernière avec Yves et Miguel, reportage au Japon. Le séisme et le tsunami ont causé la mort de 15 854 personnes. 3276 sont toujours portés disparus. Quant à l'accident nucléaire lui-même, il n'a officiellement fait aucun mort pour le moment, mais 12 municipalités du département de Fukushima ont été déclarées en zone d'évacuation et environ 150 000 personnes ont été évacuées dans un rayon de 30 à 40 km dans la centrale, où vivent encore dans des conditions précaires un an plus tard, un certain nombre de ces personnes. Certaines zones devraient rester invivables pendant plusieurs centaines d'années. 40 ans, c'est la durée prévue pour le démantèlement total de la centrale dévastée, 40 ans. En raison du niveau de radiation, un diagnostic exact de la situation des trois cœurs fondus ne sera pas possible avant 10 ans. 300 milliards de dollars, c'est l'estimation qui restera longtemps provisoire du coût pour le Japon de la catastrophe nucléaire. Est-ce que vous vous souvenez de Reiser? Oui, le dessinateur Reiser, dans les années 70. Reiser, génial dessinateur, s'était engagé dans le solaire. Ah, l'énergie solaire. Les gars de d'Arakiri, de Charlie, de La Gueule Ouverte, ces journaux de l'époque, s'étaient entichés du solaire. Ça, c'était la solution. Abat le nucléaire, sortons du nucléaire, vive l'énergie solaire. Tout à l'heure, avec Guy, on parlait avec un ami japonais qui évoquait un personnage qui s'appelle Son Masayoshi. C'est un type très très riche, un japonais, PDG de grande banque, et qui vient de financer une fondation, mais avec beaucoup 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 d'argent, pour le solaire. Pour le solaire, il pense installer des bases au nord du Japon pour cette énergie-là. Longtemps, certains ont cru que sortir du nucléaire, ce serait aussi sortir du capitalisme. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Nous vivons probablement cette mutation. Nous sommes peut-être déjà entrés dans l'ère post-nucléaire, c'est pas sûr. Mais il semblerait bien que nous allions dans cette direction, même si on voit un certain nombre de pays, je pense au Bangladesh, à l'Inde et à certains autres, qui commandent au contraire des centrales, mais il semble bien que le mouvement aille vers une sortie du nucléaire. On sortira du nucléaire lorsque la finance, le business, la domination financière y trouvera son intérêt. Il semble que ça ne soit pas avant. Malgré tout, malgré ce que je viens de décrire, de catastrophes, de morts, de souffrances énormes, on n'arrive pas pour l'instant à évacuer les zones frappées par le tsunami. Je parle des déchets. On n'arrive pas à traiter tout ça. Et ce pays si fier de sa technologie souffre énormément. Et je parlais de doutes, je parlais de fissures, je parlais de brèches entre les Japonais et leur pouvoir, cette domination très forte du pouvoir au Japon, vraiment amalgamée entre le pouvoir économique, politique et médiatique, cette brèche-là s'installe. Elle restera peut-être béante, peut-être se refermera-t-elle, mais il restera sans doute très longtemps quelque chose, pas seulement sur le plan du nucléaire, mais au-delà, au plan politique, sans qu'on puisse prévoir les conséquences à moyen et à long terme de cette catastrophe. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. 11-3-11 Fukushima.
Nuclear fallout will remain for 40,000 years. Nuclear power plants are an unpredictable risk to mankind. Chernobyl, Fukushima, anywhere. Chernobyl, Fukushima, anywhere. X-ray, gamma ray, deadly poison. Chernobyl, Fukushima, anywhere. Nuclear fallout will remain for 40,000 years. Nuclear fallout will remain for 40,000 years.
À tout coup, on se retrouve là, t'es de passage à Paris.
Oui.
Et il y a un anniversaire terrible. pas seulement pour le Japon, mais pour toute la planète, c'est Fukushima. On a fait des reportages ensemble au Japon. Et là, un an après, ton pays a connu des bouleversements. Comment tu vis ça, toi, en tant que Atsuko ?
Atsuko, oui. Oui, c'est-à-dire que pour nous, il y a avant Fukushima et après Fukushima. L'histoire du Japon a radicalement changé. Et nous vivons, enfin, ce n'est rien à voir. On n'a plus la vision du monde, vision du Japon, vision sur l'avenir aussi. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de jeunes qui sont partis de Tokyo. Et aussi.
Pour aller où, les jeunes?
Pour aller plus loin dans le sud. Ceux qui peuvent, ils sont partis. Et ceux qui n'ont pas le moyen, ceux qui ne peuvent pas, restent, mais avec énorme inquiétude pour les enfants.
Cette prise de conscience, elle se limite à un petit cercle de gens cultivés, un peu écolo?
Non, pas du tout. Non, c'était le cas tout début de catastrophe. Parce que je me rappelle que un mois après catastrophe, même des jeunes gens qui sont vachement éveillés disaient que ben non, on ne sait pas si le nucléaire est mauvais ou pas, on ne sait pas. Et puis maintenant, c'est vraiment unanimité de dire on arrête tout. C'est pas possible. Mais ce qui est formidable, c'est que dans le grand malheur, il y a toujours quelque chose de positif. C'est qu'il y a un mouvement des citoyens qui sont développés d'une manière incroyable, très très vite. Et que les jeunes qui sont dans la rue, ils font des sittings, ils se manifestent maintenant. Alors qu'il y a un an, c'était zéro. Les jeunes ne s'intéressaient pas à ces choses-là. Parce qu'on était confiants. Mm-hmm. En fait, c'était pas ça. Donc, voilà.
Le gouvernement vous a largement menti. Ou au moins s'est tu. Il y a eu une désinformation.
Et oui. En fait, ça nous a arrangé de ne pas savoir. Parce que sortir dans la rue, faire le sitting, ça nous prend du temps. Et cette énergie. Et nous, on ne voulait pas, en fait. On était paresseux.
Et maintenant, il y a beaucoup de sittings, beaucoup de manifestations?
Énormément. Tous les week-ends, avec beaucoup de monde. Et partout dans le Japon, il y a les jeunes mères de Fukushima qui font le sitting depuis pratiquement plus de 6 mois, en plein air, devant le ministère des Affaires et Économie.
Fukushima a développé un mouvement à la fois écolo et politique.
Politique, oui. Et ça porte ses fruits parce que, voilà, nous avons 54 centrales, dont 52 sont en arrêt. Il ne reste que deux. Mm-hmm. Et deux vont bientôt s'arrêter.
Alors, par exemple, la centrale d'Amaoka, où on était allé,
oui.
On avait été stupéfait de la façon dont la centrale était présentée, mise en scène. Le dimanche, les gens vont en famille.
Oui, comme parc d'attractions.
Voilà, c'était un peu Disneyland, oui. C'était un peu Nuclearland. Voilà, les familles qui viennent avec des... On explique bien ce que c'est qu'une centrale, et puis on monte un peu, on prend un ascenseur, et puis de là, il y a une vue formidable sur la centrale. Si on tourne la tête, d'ailleurs, tu te souviens, il y avait des grandes éoliennes qui fonctionnaient pour dire, voyez, on prépare...
Pour alibi,
c'est ça, c'est ça. Cette centrale, elle est fermée maintenant.
Elle est fermée, oui. Parce que c'est le maire de ville qui a dit plus jamais on va faire marcher. Donc c'était assez rapide.
Oui. C'est formidable, c'est vachement beau. Hein, il y a une belle lumière. C'est Disneyland, quoi. Yeah. Wow.
Là-bas, si j'y suis, à Amaoka, Japon.
Number 3.
C'est le réacteur numéro 3.
9 mai 2011.
C'est une reproduction grandeur nature du réacteur numéro 3. La cuve. Les barres de combustible.
Atom Show.
Ça valait le coup, hein.
Ah ouais, c'est génial. C'est un temple dédié au nucléaire.
Hi. Konnichiwa. Minasan no minowe.
Voilà, je peux vous guider à l'intérieur du réacteur. Voilà, c'est la piscine. Au centre de la piscine, il y a le bâton de uranium. Toc, toc. Regardez dedans. Ça, c'est l'uranium. Et je vais vous montrer comment l'énergie se crée.
C'est un bombardement qui provoque la réaction en chaîne. Et on voit les écrans avec le monsieur qui appuie sur le bouton.
Et voilà, regarde, le réacteur se met en route. C'est extraordinaire.
Et voilà, on voit la réaction en chaîne de fission qui commence. Et tout ça raconté en dessin animé avec un petit bonhomme orange avec des sourcils bleus. Et on voit la vapeur qui se dégage, qui actionne les turbines, qui tourne, qui font marcher le générateur et qui produit de l'électricité. C'est simple comme bonjour.
Voilà, là-bas, si j'y suis, Fukushima, un an après, il y a un an, on a fait une série de reportages, vous vous en souvenez peut-être, à Fukushima, et pas seulement à Fukushima, on était à Iwaishima, c'est une toute petite île où les habitants, qui sont 500, luttent depuis 30 ans contre l'implantation d'une centrale nucléaire dans l'île qu'ils voient de chez eux, qui est à 4 kilomètres. Et pour parler de tout ça, on est avec Colin Kobayashi, qui est journaliste, qui vit entre la France et le Japon. Et Colin, j'aurais voulu avoir votre opinion. On a beaucoup, l'année dernière, fait l'éloge de la sérénité des Japonais, et à quel point les Japonais étaient stoïques face à cette catastrophe. Serein, discipliné, ça cachait quelque chose quand même.
Sûrement, oui, évidemment. On ne peut pas s'exprimer tout de suite son malheur d'une façon directe. De toute façon, la tradition japonaise oblige à être modeste, à être toujours discret. Donc, on ne s'exprime pas directement, on ne se met pas en colère directement. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer.
Qui sont en train de changer, et ces manifestations contre le nucléaire, cette opinion japonaise qui, à 80%, est hostile maintenant au nucléaire, et puis... Un an après, sur 54 centrales, il y en a 52 qui sont arrêtées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fermées. 52 qui sont arrêtées. Est-ce que vous pensez que le Japon, et pas seulement le Japon, est rentré dans la période post-nucléaire ?
Peut-être pas tout de suite, mais ça peut arriver. Tout dépend de la mobilisation de l'ensemble de la population japonaise. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui bougent. Comme le gouvernement et les autorités nucléaires, ils étaient tellement disqualifiés et on ne les croit plus, puisqu'ils ont tellement manipulé des mensonges, des falsifications et des opacités des informations qu'ils nous donnaient. Maintenant encore, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Donc, la population générale, il comprend maintenant. Surtout, la population de Fukushima, ils sont très, très conscientes de cette réalité. Donc, si on arrive à économiser certaines ressources énergétiques, chacun de son côté, chaque quartier, chaque industrie, faire une démarche économique sans dépenser nullement des quantités absolument incroyables, comme la nuit de Tokyo, le quartier de Shinjuku, animé complètement avec des néons et des écrans gigantesques télévision, ça n'a pas de sens. Donc, dans ce sens-là, je crois que ça va aller vers une société beaucoup plus économe. Je crois que cette année, vraiment, une année cruciale pour faire un barrage contre cette politique non démocratique, uniquement pour l'intérêt économique. Je crois que ça va changer quand même quelque chose.
Alors, il y a aussi cette autre centrale qui n'est pas construite, mais qui est un projet dont je parlais à l'instant. Depuis 30 ans, les habitants, souvent très âgés, de l'île d'Iwaishima,
des paysans, oui.
Des pêcheurs, des paysans, ils sont 500, et depuis 30 ans, ils se battent contre l'implantation, la construction d'une centrale sur l'île qui est en face de l'île de Kaminoseki. Où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'ils ont des chances d'aboutir enfin ?
Oui, peut-être... Grâce à cette tragédie de Fukushima, le gouverneur de Yamaguchi, il est très très réticent de donner le feu vert tout de suite. Il dit qu'il faut attendre vraiment tous les examens et Donc, pour l'instant, les travaux sont suspendus. Et peut-être on aura la chance de faire arrêter ce chantier de construction de Kamino Seki.
En attendant, retour à Iwajishima.
On en a marre. On a ma mère de votre bavardage. Non, c'est notre vie qui est en jeu maintenant. Il faut sentir cette colère. Vous dites qu'il n'y a pas de suite d'effet immédiat. Il y a beaucoup trop de victimes déjà. Je veux encore cette centrale. Oh, les Japonais, il faut dire non, maintenant il faut dire non. L'avenir de notre pays, ce n'est pas une mince affaire. Non, il faut dire non. Non, non, non. Maintenant, dites non. On ne savait pas d'où ça venait. Maintenant, il faut réfléchir. Peut-être il y a trop de désirs. Il y avait trop de lumière, trop de clim. Il y avait trop de voitures, trop de gaspillage. Mais maintenant, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Alors, il faut s'alarmer. Il ne faut pas gaspiller. Voilà, nous aimons notre ville. Non, non, non. Il faut d'abord qu'on puisse dire non. Il faut dire non. Nous les Japonais, il faut dire non.
Alors là, on est vraiment au Japon. On est vraiment au Japon. Il y a une odeur formidable. Et ça, c'est des algues qui sont en train de sécher.
Après la récolte, on met dans l'eau chaude une fois et puis on laisse sécher après.
Alors il y a ça, il y a les algues qui sont en train de sécher là. Mais il y a aussi ce dispositif de digue assez haute quand même, hein, contre les tempêtes et les tsunamis. Et là, il y a ces trucs épouvantables, des espèces de tripodes de béton entassés là, qui sont destinés à briser les vagues importantes. Est-ce que le tsunami arrive jusqu'ici?
Ces digues sont contre la tempête. Hein.
Les typhons.
Les typhons.
Typhons. Les typhons.
Là-bas, si j'y suis, à Iwajishima, Japon, 10 mai 2011.
C'est vraiment un tout petit village tout tranquille avec des petites maisons basses. Il y a à peine une route là où il y a un monsieur, un pêcheur qui passe sur son vélo. Un papy d'ailleurs, et il s'incline en même temps qu'il pédale. Et il fait très beau. Il y a des coquelicots qui poussent sur les bas-côtés. C'est juste quelques maisons. C'est sur une île très escarpée qui arrive vraiment presque à pic dans la mer et les maisons sont accrochées comme ça à flanc de coteau. Et on arrive sur le petit port où il y a plein de petits bateaux de pêche, tout petits.
Ah, voici un panneau. Nous sommes absolument contre l'implantation de la centrale nucléaire.
Comment ça se dit?
Genpatsu zettai hantai.
Genpatsu zettai hantai.
Là, là, c'est le port. C'est vrai que c'est des tout petits bateaux de pêche. Il n'y a pas du tout de tourisme. Il n'y a pas de yacht. Il n'y a pas de plaisance, là. C'est que leur petit bateau à eux, les gars, ils défendent bel et bien un mode de vie, une façon de vivre, tout simplement. Hein.
Ah, voilà d'autres petites dames. Voilà. T'as vu, elles ont le petit chapeau.
Voilà, voilà les anti-nucléaires. Voilà les anti-nucléaires.
Les Grunen.
Voilà les Grunen.
C'est la cantine des habitants. Donc,
Ça, c'est la petite auberge.
Entrez, entrez. Voilà, on partage même table, hein, désolé.
Okay. Okay.
Voilà la carte.
Alors, la ville de Kaminoseki, c'est ici et là, et celle-ci.
Kaminoseki, où nous sommes, c'est trois îles. On est sur une des îles qui s'appelle Iwaishima, une île en forme de cœur, c'est tout à fait mignon et très beau. Si on fait le tour de l'île, ça fait 12 kilomètres. Et vous êtes combien d'habitants ?
Actuellement, on compte 500 habitants. Donc, la plupart d'habitants travaillent dans l'agriculture et aussi dans la pêche, mais on compte aussi beaucoup de retraités parce que la population est assez vieillie.
Assez vieillie, la population. En effet, en arrivant, on voit de charmants vieillards, plutôt des vieilles dames d'ailleurs, presque uniquement des vieilles dames, tout à fait souriantes, tout à fait charmantes, sur le quai de débarquement de cette île, absolument pas touristique. On ne voit pas de bateaux de plaisance, non, des bateaux de pêche, et on arrive là, à 81 km d'Hiroshima, et c'est vraiment un endroit tout à fait charmant. C'est important de dire ce mot Hiroshima, 80 km d'Hiroshima. C'est la ville, maintenant c'est une ville moderne, mais c'est une ville importante, Hiroshima. Et bien sûr que ce mot Hiroshima, Nagasaki, ça dit quelque chose dans l'imaginaire et dans les fantasmes et dans les traumatismes japonais. Et ça n'est pas pour rien qu'on s'oppose à une centrale. Et on peut se demander d'ailleurs comment le nucléaire civil a pu être imposé à une population à ce point traumatisée par la bombe A qui a pété le 6 août 1945. Comment a-t-on pu faire, comment le lobby, la puissance du capitalisme japonais a pu faire pour imposer le nucléaire civil à cette population, et les efforts de propagande, les efforts de persuasion, d'intimidation et d'opacité qu'il a fallu pour les persuader d'accepter ou de se résigner à cette énergie. C'est tout ça qui est en cause aujourd'hui dans ce pays. Ça ne sera pas sans conséquence dans le reste du monde, à commencer par le nôtre. Le nôtre, je parle de la France, pays très nucléarisé, comme vous savez. Et en tous les cas, ça n'est pas sans conséquence dans ce que nous disent ceux qui nous reçoivent. Yamato Sadao, ça c'est vous. Là, ici, on est dans le bureau de votre association.
C'est le bureau de l'association des opposants de la centrale nucléaire et on compte 90% des habitants qui sont pour nous.
C'est-à-dire 90% des habitants font partie d'associations, vous soutiennent. Qui sont les 10% qui restent ?
ですから、賛成になってる人がその予定地に多いのは土地を売る、それと漁業が中心なんで保証金をもらえるということで賛成する人が多いです。で、岩井島の場合はもう目の前にできるし、漁業も形が違って保証金をいらないというか、島なので漁業をしなければ
Les sympathisants pour l'implantation, ils sont pour parce que c'est pour toucher les dédommagements. Voilà, à la fois pour la pêche et à la fois pour la vente des terrains. Et nous sommes opposés parce que la nouvelle centrale sera en face de chez nous. Et nous tenons à notre pêche et nous n'avons pas besoin de ces dédommagements.
D'accord, c'est une histoire formidable. C'est-à-dire, sur les trois îles au total, 70% des gens
sont pour l'implantation parce qu'ils recevront des dédommagements pour la pêche. Ils seront obligés de suspendre leur activité de pêche, évidemment. Donc, ils recevront des dédommagements. Ensuite, ils pourront vendre leur terrain, évidemment, pour l'implantation de la centrale. En troisième lieu, il est bien possible que ça crée des emplois, alors que la population, on l'a vu, est vieillissante. Mais nos amis ici, eux, préfèrent protéger leur façon de vivre, leur façon de pêcher, et surtout, la centrale sera en face de leur île, sera là tout près, et voilà un peu la pomme de discorde. Et tout ça, ça dure depuis 30 ans.
Tout à fait, nous arrivons à la 29e année de conflit.
Vous entamez la 29e année de lutte contre l'implantation de cette centrale. Vous êtes 400, ce qui est beaucoup, vous êtes 90% de la population, contre une puissance extraordinaire qui est le lobby pro-nucléaire et japonais. Alors expliquez-nous comment, depuis 28 ans, ce tout petit village gaulois, ce tout petit village japonais, arrive à tenir.
Alors tout d'abord, nous manifestons chaque semaine dans l'île contre l'implantation de la centrale nucléaire. On compte maintenant plus de 1000 fois aujourd'hui. Alors, comment on fait pour tenir? Nous avons le droit communal pour exercer la pêche autour de l'île. Mm-hmm. Donc, par rapport à des gens d'extérieur qui ont accepté de recevoir des dédommagements, comme nous refusons cet argent-là, on ne peut rien faire.
On ne peut rien faire contre vous.
C'est-à-dire que tant que vous acceptez pas l'argent, tant que vous acceptez pas de vous faire acheter, vous pouvez bloquer le processus.
Mais vous voulez pas des beaux ordinateurs, un beau bureau, avec l'air conditionné, avec plein de secrétaires blondes.
Enfin, je vous répète, je préfère qu'on annule l'implantation plutôt qu'avoir de l'argent. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche.
La raison pour laquelle on est là, c'est que le 11 mars 2011, la centrale de Fukushima a explosé avec tout ce qui s'ensuit, de radioactivité déversée dans l'air, dans la mer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'explosion de Fukushima a changé pour vous ?
Peut-être les habitants de d'autres parties de la ville sont un petit peu bouleversés d'apprendre l'accident de Fukushima parce que ils pensaient que l'industrie était sécurisée. Donc ils se demandent, mais en ce qui concerne nos habitants, en fait, ils n'ont pas tellement de changement de position.
C'est-à-dire que l'ensemble des habitants des trois îles de Kaminoseki sont en train peut-être d'évoluer et de changer d'opinion.
Je ne suis pas optimiste, vous savez, malgré les réactions des populations qui sont inquiets. Mais je pense que le gouvernement et la société d'électricité va essayer quand même de convaincre les habitants à nouveau quand l'accident sera oublié.
Vous n'êtes pas optimiste du tout.
Vous savez, nous avons 30 ans d'histoire, donc nous restons tout à fait vigilants malgré tout.
Là, on fait un petit tour du village, là, avec les dames qui sont au soleil sur le port. Tout est calme. Elle regarde dans l'eau les méduses et les chinchards. Ça va, mesdames? Et vous êtes bien au soleil, là, n'empêche, hein? Est-ce que vous êtes pour la construction de la centrale, vous?
Je suis absolument contre. Vous vous rendez compte, il n'y a que 3 km hein, d'ici jusqu'à la terrain de construction.
Vous
voyez, c'est là-bas, c'est une espèce, vous voyez une espèce de terrain rasé.
C'est là-bas.
Si vous montez là, vous verrez.
Elle nous montre l'endroit. Ce serait là. La centrale serait là. Et ça fait 29 ans que ce petit village lutte contre l'implantation de la centrale là-bas sur l'autre île.
3 km.
Ouais, c'est ça. Vous auriez accepté, vous seriez plus riche maintenant, hein?
それがいかに愚かなことかっていうことはこの福島原発の事故が証明したんじゃないですか。
Ça serait stupide. Et je pense que cela a été prouvé avec l'accident de Fukushima aujourd'hui.
それは予定地の大技っていうか部落で次第っていうのがあるんですよ。
Il y avait un temple Shinto là-bas, dans la zone de construction d'une nouvelle centrale. La propriétaire de ce terrain était la communauté locale. Donc, naturellement, le prêtre de l'époque, le premier prêtre de ce temple Shinto, a refusé de vendre ces terrains qui étaient indispensables pour la construction. Au-dessus du prêtre, il y a une espèce d'église comme à Rome. En fait, toute hiérarchie d'organisation religieuse japonais a décidé de renvoyer ce prêtre qui était opposant.
Et
voilà, ils ont envoyé quelqu'un d'autre, naturellement.
Ils l'ont remplacé par un autre.
Voilà, qui est partant pour la construction. Et du coup, ils ont réussi à acheter ce terrain.
Quelle puissance, hein? Quelle puissance ce lobby et quel héroïsme cette résistance.
Alors donc, l'itinéraire, je vous propose qu'on aille voir le terrain.
Oui.
Vous pouvez aussi poser vos questions, parce que Shimizu, il est le secrétaire général de l'association des habitants de l'île de Iwaishima.
Shimizu.
Hi. Donc, il connaît très bien le dossier.
Oh !
Alors, vous voyez, malgré son apparence, il fait partie de la minorité des élus qui sont opposés au projet.
Allez, on y va ? Allez, allons-y. Voilà, on est dans ce bateau, on est dans un paysage absolument magnifique.
Voici c'est tout ce que vous voyez, c'est notre village.
Ouais, quand on arrive comme ça, de loin, on voit l'île et la partie village est juste regroupée là, en bas. Et après, il n'y a plus d'habitation. Voilà, on arrive doucement, hein.
Là-bas, si j'y suis, à Iwaishima, Japon, 10 mai 2011.
Wow.
Voilà, le petit clapotis. Hop, les petits oiseaux. Les poissons qui sautent là-bas, le long de la côte, il y a des poissons qui sautent. Et des collines verdoyantes, absolument sauvages, des arbres en fleurs. Et puis là, dans ce creux de vallon, cette plage, eh ben, y a un projet de centrale nucléaire comparable à celle de Fukushima. Il y a des explorations qui sont faites, il y a un chantier pour évaluer les risques de construction.
Alors depuis le 11 mars, après l'accident de Fukushima, l'accord de construction de la part du maire de la ville et aussi du préfet a été annulé. Donc une partie de travaux a été suspendue.
Suspendue ou interrompue définitivement ?
Pour l'instant, c'est qu'une suspension.
Oui.
Alors, ce que vous voyez ici, c'est le sondage du sol. Mais avant le 11 mars, ils étaient en train de construire des digues en béton, d'abord autour, sur la mer, pour pouvoir mettre la terre à l'intérieur.
Pour faire du remblai.
Et ensuite construire la centrale. Donc pour empêcher ces travaux-là, plusieurs bateaux de pêcheurs étaient présents pour faire empêcher d'entrer des bateaux de travaux.
D'accord. Et ça,
Ces travaux ont été suspendus.
Et les bateaux de pêcheurs qui ont empêché la construction des remblais et de l'avancée en béton, c'est vous. C'est ce bateau-là, non ? C'est celui à bord duquel nous sommes ? Voilà.
Bien sûr, voilà notre ami. Il était le premier à participer.
Voilà. Alors bien sûr, en ce moment, à cause de Fukushima, tout ça est suspendu. Bon, parce que c'est vraiment trop gros, l'émotion est trop terrible. On ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Il y a des gens qui craignent quand même pour leur poste, pour leur entreprise. Mais enfin, bon, ça ne veut pas dire pour autant que c'est définitivement abandonné quand on voit les investissements formidables qui ont déjà été faits.
Je pense que c'est possible. Oui, il faut faire annuler ce projet parce que nous avons passé tellement de temps. Et si ce projet se réalise, alors je me demanderai qu'est-ce que c'était mes 30 ans passés sur le mouvement de contestation.
30 ans à lutter.
Mais ça continue. On n'est pas encore arrivé au bout.
Presque arrivé au bout. Les habitants de cette petite île d'Iwaishima voient peut-être le bout de leur lutte. Merci à tous, merci à Tsuko Shoda, Colline Kobayashi, merci. Colline Kobayashi, vous pourrez l'entendre à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris le 20 mars prochain, dans le cadre d'une journée sur le thème de l'après-désastre Fukushima, avec Nanako Inaba et Michael Ferrier. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à notre traductrice, Yuriko Ishinaka. Nous vous signalons également ce soir l'émission de Thalassa sur France 3 qui traite d'Iwaishima. Voilà, ils sont allés aussi, eux, à Iwaishima. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également retrouver sur le site là-bas.org, là-bas.org, cette émission, ainsi que la série que nous avions consacrée au Japon en mai, début mai de 2011. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Quant à lui, attend vos messages sur le répondeur de la base Sujissu au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Africains ne sont que des assistés. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les Indiens sont borgnes ou cujats. Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les enfants des favelas sont violents ou drogués. Ceci est une pub pour vous rappeler que les hommes et femmes des pays du Sud ont du talent et des idées. Aidez-nous à soutenir leurs projets. En 2011, grâce à votre générosité, le CCF des Terres Solidaires a soutenu 500 projets dans 63 pays. Ensemble, continuons. ccfd-terresolidaires.org.
L'été commence maintenant sur idtgv.com. 35 destinations à partir de 19 euros à réserver maintenant pour cet été. IDTGV, choisissez avec qui vous voyagez.
SNCF.
Prix soumis à disponibilité, valable pour en aller simple en seconde classe, réservation sur idtgv.com.
France Inter et le Théâtre National de Marseille La Criée présentent, du 13 au 30 mars, les Apaches de Macha Makeyev. Avant les punks, les hippies, les rockers, les azous, il y avait les Apaches. Dandy nostalgique, maladroit et virtuose, tendre et menaçant, les héros de la nouvelle création de Macha Makeyev s'agitent dans le chaos d'un ancien music hall. Retrouvez les Apaches dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Voilà, ce soir aussi à 20h, Zoé Varier retournera à Fukushima un an après. Dans un instant, vous retrouvez Didier Varro. Quand la musique donne, on se retrouve lundi. Quant à nous, à 15h pour la basse, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut!
Le Front National accuse Nicolas Sarkozy de manipulation à propos des harkis et des rapatriés d'Algérie. Le numéro 2 du parti d'extrême droite, Louis Alliot, dénonce des mensonges et des promesses répétées du candidat président. Nicolas Sarkozy est en déplacement à Nice auprès des rapatriés d'Algérie. Il reconnaît qu'ils ont été abandonnés par la France après la guerre, la France qui a une dette envers eux. Mais il refuse de présenter les excuses de la République et d'ouvrir la voie à une réparation matérielle. Suite de l'affaire Bettencourt, quatre journalistes de Mediapart et du Point, à leur tour, convoqués chez le juge. Il s'agit du dossier des enregistrements réalisés au domicile de la milliardaire. Un ancien journaliste de Mediapart devrait être mis en examen dans ce dossier. Au procès AZF à Toulouse, un réquisitoire sévère contre les négligences du groupe Total. L'avocat général conteste la décision de relax prise en première instance, faute de preuves matérielles. Les soins dentaires sont de plus en plus élevés face à la hausse des dépassements d'honoraires. L'assurance maladie ouvre aujourd'hui des négociations avec les syndicats professionnels de dentistes. Ces dépassements augmenteraient chaque année de 5%. Grégoire Lecalot.
Les deux tiers de ceux qui ont un jour renoncé à se faire soigner souffraient des dents. C'est ce que souligne l'Institut de recherche et de documentation sur la santé, l'IRDES. En jeu, le prix de certains soins dentaires, surtout ceux qui ont trait aux prothèses. Ils sont particulièrement sujets aux dépassements d'honoraires. Selon le journal Les Échos, ces dépassements représentent même 70% du prix dans ce type de soins. L'assurance maladie rembourse trop peu et même avec une complémentaire santé, le patient doit encore débourser le quart de la somme. Du coup, les dents deviennent un marqueur social. La Cour des comptes note que presque un ouvrier sur deux a une dent en moins contre presque un tiers des cadres. Les dentistes demandent au gouvernement une revalorisation des tarifs des soins les plus courants, caries, détartrage, dévitalisation ou encore extraction de dents, afin, disent-ils, d'éviter de devoir se rattraper sur les prothèses pour vivre. L'assurance maladie, de son côté, prévient, vu les déficits, les marges de manœuvre sont nulles. La négociation doit aboutir avant la présidentielle, si possible.
Grégoire Lecalot, c'est le soulagement après le succès de l'offre d'échange de la dette grecque. Plus de 80% de ses créanciers ont accepté d'y participer. Du coup, le spectre de la faillite s'éloigne. Mais la Grèce est-elle vraiment sauvée? Le chef de l'État estime cet après-midi que le cas grec est désormais réglé. Ce serait faux de le croire, estime pour sa part le ministre allemand des Finances. Le Parlement croate ratifie le traité d'adhésion à l'Union européenne, un vote à l'unanimité. L'adhésion a été approuvée lors d'un référendum en janvier par 60%. 66% des Croates. Il faut maintenant que le traité soit ratifié dans 22 pays européens, dont la France. L'adhésion de la Croatie est prévue pour le 1er juillet 2013. Enfin, sachez que la route de Tignes et de Val d'Isère va rouvrir cet après-midi. L'accès aux deux stations savoyardes était coupé depuis hier soir par un éboulement. Des travaux ont eu lieu et la départementale devrait être rouverte au moins toute la soirée. Le temps pour les vacanciers venus en TGV de monter jusqu'aux stations.
Nous autres.
Oui, bien sûr. L'apport, elle est là.
Zoé Varier.
Tomohiko Suzuki, journaliste japonais freelance, s'est fait embaucher comme manœuvre à la centrale de Fukushima Daiichi après la catastrophe nucléaire. Il témoigne.
On a surtout peur de l'inconnu. C'est que nous ne savons pas trancher. Nous ne pouvons pas trancher. C'est de ça, surtout. D'être dans l'ignorance.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter. La différence.
16h04, bonjour Didier Varro.
Bonjour Delphine Simon.
Quand la musique donne, et c'est une spéciale Pink Floyd.
Est-ce que vous avez écouté Pink Floyd ou est-ce que vous écoutez Pink Floyd?
Ouais, oui, bien sûr.
Alors là, je vous conseille de rédiger votre prochain journal. Vous serez là à 17h.
Absolument.
Avec la musique de Atom Earthmother, je pense que les nouvelles seront bonnes.
D'accord.
On vous retrouve à 17h. Merci, c'est parti.
Quand la musique donne.
Rock, musique électro, techno.
Chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
La musique, elle est effectivement juste là. C'est une vibration, comme le dit Christophe dans notre générique. Et quelle vibration cet après-midi sur France Inter. Vous allez avoir la chance d'écouter une version inédite du morceau des Pink Floyd, Atom Earthmother, extrait de l'album du même nom, sorti en octobre 1970. Cette nouvelle version a été interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 12 janvier dernier, au Théâtre du Châtelet, avec la participation exceptionnelle de Ron Gissing, co-compositeur de l'œuvre avec les Pink Floyd. Un événement organisé dans le cadre des programmes pédagogiques de l'éducation nationale, puisque cette année, l'étude de Atom Earthmother est au programme des étudiants qui passent le bac dans la filière musique, ainsi d'ailleurs que pour ceux qui sont inscrits dans la filière générale et qui peuvent choisir en option ce sujet. C'est donc cet après-midi un numéro exceptionnel de Quand la musique donne, qui aurait pu aussi s'intituler Passe ton bac avec les Pink Floyd. L'occasion pour certains d'aller à la découverte ou à la redécouverte de ce morceau emblématique des Pink Floyd. Je suis en compagnie de deux lycéens, Iva et Raphaël, qui travaillent donc sur l'œuvre des Pink Floyd et ont assisté à ce concert exceptionnel que vous allez écouter cet après-midi sur France Inter, ainsi que de Jean-Jacques Justafray, le chef d'orchestre qui a dirigé cette représentation exceptionnelle. Mais avant cela, petit retour sur la genèse du groupe Pink Floyd avant 1970. On
strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine.
Voici comment Nick Mason, le batteur des Pink Floyd, parle de l'origine du groupe. Les Pink Floyd résultèrent de la fusion de deux groupes d'amis. L'un gravitant autour de Cambridge, d'où émanaient Roger Waters, Syd Barrett et David Gilmour. L'autre groupe étant constitué de Rick Wright, le même Roger Waters, et Nick Mason, qui s'était connu lors de leur première année d'architecture à l'école polytechnique de Regent Street à Londres. C'est là que se sont cristallisés les premiers souvenirs du groupe. 1964, première séance en studio. Le groupe cherche son style et compose des chansons de rhythm and blues. 1967, signature du premier contrat chez EMI. En août de la même année, sort le premier album des Pink Floyd, The Piper at the Gate of the Dawn, comprenait littéralement le joueur de cornemuse aux portes de l'aube. Premier album dominé par l'inspiration et la personnalité géniale et tourmentée de Syd Barrett. 9 minutes d'effets stéréo, schizophréniques, tricotage de guitare insensé. C'est la première pièce improvisée du rock. Vertigineux voyage dans les effets pas seulement secondaires du LSD. Juin 1968, deuxième album enregistré à Abbey Road, A Saucer Full of Secrets, titre de l'album et d'une première pièce en 4 mouvements, en forme de suite de 12 minutes qui préfigure déjà la suite. C'est aussi le témoin de la dernière participation de Syd Barrett, définitivement trop défoncé et qui enregistre une sorte de testament avec la collaboration de l'orchestre de l'Armée du Salut. It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here.